continuer. Entrez dans ce livre 2, cette question précédente. C'est même là ce qu'oublient, tout en faisant eux aussi ceux qui disent les idées existaient, car ils séparent les êtres physiques, qui sont pourtant des êtres bien moins séparables que les êtres mathématiques. Hein, si vous vous souvenez, chapitre 2. Quand il dit, eh bien oui, le mathématicien aussi s'affaire concernant ses déterminations, mais non en tant qu'elles sont chacune une limite d'un corps physique, il ne porte pas non plus le regard de son intelligence sur les attributs susdits en tant qu'ils inhèrent à des êtres de cette sorte, d'où vient d'ailleurs aussi qu'il les sépare, car ils sont séparés par lui en pensée du mouvement. Et quant aux mathématiques, cela n'apporte en rien, ni en engendre une erreur de ceux qui font cette séparation. C'est même là ce qu'oublient, tout en faisant eux aussi ce qui disent les idées existaient, car ils séparent les êtres physiques, qui sont pourtant des êtres bien moins séparables que les êtres mathématiques. Et ça doit nous faire entrer dans la différence entre l'abstraction des philosophes et l'abstraction du mathématicien. Alors, dans le langage d'Aristote, il ne faut pas l'oublier, hein, le terme abstraction n'est applicable qu'aux mathématiques. Le terme abstraction prendra une extension beaucoup plus grande à partir d'Avicenne. Et saint Thomas suivra Avicenne là-dessus. Je dis ça pour l'histoire du mot abstraction. C'est intéressant. Avicenne va très loin dans le mot abstraction, puisqu'il dit que même dans la sensation, il y a une abstraction. Ce qui est vrai. Puisque ce n'est pas une espèce de reflet. Il y a une certaine abstraction. C'est intéressant de voir que le mot abstraction, comme ça, a pris des significations très différentes. Alors rappelez-vous ce que saint Thomas dit en commentant le De Trinitate de Boèce, c'est le grand lieu, sur les différences de degré d'abstraction de la physique, des mathématiques et la philosophie première. C'est un lieu très important. Je ne sais plus la référence exacte, mais c'est facile à trouver. On vous la donnera, si vous voulez la voir exactement. C'est dans le De Trinitate de Boèce. Alors, au point de vue de l'histoire du thomisme, il y a là quelque chose de très intéressant, comme interprétation. L'interprétation que donne le père Geiger, qui est une interprétation particulière et l'interprétation plus classique que donnent les grands thomistes, Jean de Saint-Thomas et compagnie. Cette question deviendra manifeste si l'on cherche à exprimer les délimitations rationnelles de chacune de ces deux sortes de réalités, à savoir, et de ces êtres mêmes, et des attributs qui inhèrent en eux. En effet, l'impair, le pair, le droit, le courbe, d'une part, le nombre, la ligne, la figure, de plus, et d'autre part, existeront, suivant cette expression, sans mouvement. Tandis que la chair, l'os et l'homme ne le feront plus. Mais ces êtres-là sont exprimés, existés, à la façon dont existe un nez Camus, et non à la façon dont existe le courbe. Alors voyez bien le nez Camus et le courbe. Le courbe fait abstraction de la chair et du sang. Tandis que le nez Camus, non. Qui vous donne un coup de poing sur le nez Camus, il saigne. Tandis que sur le courbe, il ne saigne pas. Il y a abstraction du sang. Ça, on voit tout de suite, hein. Les effets sont nets. La manifestation aussi, donc, le manifesteront aussi les parties les plus physiques des mathématiques, telles que l'optique, l'harmonique et l'astronomie. C'est très intéressant ça, parce que c'est déjà les premières applications des mathématiques au domaine physique. Alors c'est là où il faudrait, en critique des sciences, voir la manière différente dont Aristote parle ces sciences subalternées aux mathématiques, et la manière dont se structure la physique moderne. Vous voyez bien ce que je veux dire par rapport à la dépendance des mathématiques. Pour Aristote, vous voyez, le manifesteront aussi les parties les plus physiques des mathématiques, telles que l'optique, l'astronomique, l'harmonique et l'astronomie, car elles ont un rapport à la physique, d'une certaine manière, à l'inverse de celui qu'elles ont à la géométrie. En effet, la géométrie examine ce qui concerne la ligne physique, mais non en tant que physique, tandis que l'optique mathématique examine bien la ligne, mais non en tant que mathématique, mais en tant que physique. Ça, c'est très astucieux, c'est très intéressant, il faudrait prolonger ça, critique des sciences, par rapport à la physique moderne et sa formalisation mathématique. Et Aristote, autrement dit, nous met en face d'une connaissance mixte qui n'est ni la philosophie de la nature, ni la géométrie. L'abstraction mathématique est très nette pour Aristote. Pas commun, tu voudras bien voir, mais c'est très net pour Aristote. C'est ça qu'il appelle l'être abstrait. L'être abstrait pour Aristote, c'est l'être mathématique. Alors vous voyez, la géométrie examine ce qui concerne la ligne physique, mais non en tant que physique. On abstrait du sensible et du mouvement. On garde le domaine divisible. Et on abstrait du sensible et du mouvement. Et du mouvement pour la géométrie. Tandis que l'optique, qui pour lui est une science subalternée aux mathématiques, tandis que l'optique examine la ligne, mais non en tant que mathématique, mais en tant que physique. Donc dans son application physique. L'optique garde le point de vue sensible, garde le point de vue du mouvement, mais dans la lumière mathématique. C'est la mathématisation du physique. Alors il faudrait regarder, ça c'est très intéressant à bien faire, à bien voir. Je vous ai dit, nous devrions ici réécrire progressivement les degrés du savoir de Maritain. Il faut arriver à le faire. Je crois que ce serait très intéressant. Les degrés du savoir de Maritain sont sûrement un des livres de Maritain les plus intéressants et un des livres nécessaires dans notre monde d'aujourd'hui. Mais je crois que Maritain n'a pas saisi vraiment la manière dont on doit regarder les rapports de la philosophie et de la physique contemporaine. Parce que les rapports avec les mathématiques sont beaucoup plus faciles. Alors, pour bien comprendre les rapports entre la philosophie de la nature, la philosophie de la matière et la physique contemporaine, il faut d'abord regarder les rapports entre la philosophie de la nature et les mathématiques. Puis ensuite, regarder l'application avec la physique contemporaine et voir la différence avec ce qu'Aristote appelle les sciences subalternées à la géométrie. C'est un petit problème très intéressant. Puisque là, d'ailleurs, et voyez bien ce que fait Aristote, hein. Aristote montre toujours le rapport qui existe entre la philosophie de la nature ne quitte pas le jugement d'existence. Le jugement d'existence implique le sensible. La philosophie de la nature part du sensible, induit le principe qui reste uni au sensible. Donc on n'abstrait pas du sensible. Parce que le devenir est toujours dans le sensible. Puisque le devenir pour Aristote est toujours entre les deux contraires. Et les deux contraires sont des qualités sensibles. Donc la philosophie de la nature demeure toujours liée à l'expérience. Mais elle implique ce que nous appelons une abstraction. Par l'induction, ce que les scolastiques ont appelé l'abstraction au premier degré. Ce qui n'est pas tout à fait juste, parce que j'aime pas beaucoup qu'on mette un degré, deuxième degré, trois degrés, parce que c'est pas tout à fait ça. C'est mieux de regarder que chaque science a son abstraction propre. Et donc il faut saisir le caractère propre de l'abstraction type philosophie de la nature, l'abstraction propre type des mathématiques, l'abstraction propre type de ce qu'Aristote appelle les sciences subalternées à la géométrie et aux mathématiques, et ce que nous appelons la physique moderne. Et dans la physique moderne, il y a les degrés d'abstraction qui sont différents. Et puis ce que nous appelons, nous, l'abstraction métaphysique. L'abstraction métaphysique reste liée au jugement d'existence, mais se sépare du sensible. Ça qui est très curieux. Parce que l'ens in quantum ens n'est pas lié au sensible. Mais il est toujours lié au jugement d'existence. Donc il y a un lien avec le jugement d'existence qui demeure, toute la philosophie première, toute la métaphysique, tandis qu'au contraire, les mathématiques ne sont plus liées au jugement d'existence. Vous voyez ? Et c'est ça que Maritain n'a pas vu du tout. Alors que je crois que c'est par le jugement d'existence que nous devons essayer de comprendre les différents degrés d'abstraction. Parce que là, on a un domaine très précis, qui est une base, qui est l'expérience. Alors, les mathématiques, elles, se séparent du jugement d'existence. Elles se séparent de tout le domaine sensible et du domaine mouvement pour formaliser le devenir, le divisible. C'est une formalisation du domaine du divisible, donc du possible, de l'être possible, et en définitive, la formalisation du divisible rejoint la relation. Là, c'est très délicat de voir est-ce que dans les mathématiques, il y a une abstraction toujours plus forte pour ne garder plus que la relation. Ce que je crois. Et le fondement de la relation, la quantité, est de moins en moins explicite. Alors, il faudrait regarder ces graduations. Vous voyez ? Étudier l'être mathématique tel que le père Gérard des Lauriers l'a étudié dans le temps dans la RSPT, Revue des sciences philosophiques et théologiques, du Saulchoir. Le père Guérard écrit un article extrêmement intéressant, difficile à lire comme toujours le père Guérard, mais extrêmement intéressant. Je me souviens quand j'étais étudiant, je l'ai lu et relu avec un cher polytechnicien à côté de moi qui m'expliquait constamment certains termes du père Guérard dans cet article « Lettres mathématiques ». Vous voyez, que représente exactement le contenu intelligible de lettres mathématiques? Au fond, c'est ce que le frère Balmès, M. Balmès, essaie de faire. Il essaie de voir qu'est-ce qu'il y a exactement dans lettres mathématiques. Alors, le père Guérard le saisit à sa manière et lui essaie, et je crois que c'est très intéressant, de le saisir d'une autre manière. Mais c'est sûr que c'est très important de saisir la relation de l'être mathématique par rapport à l'être métaphysique. C'est très important. C'est très important parce que c'est la position platonicienne et la position aristotélicienne qui, là, prennent immédiatement leur caractère. Alors, c'est intéressant au plan historique, et au-delà du plan historique, il faut comprendre pourquoi, dans la vision de Platon, les mathématiques jouent le rôle de médiation, et comment, dans la perspective aristotélicienne, les mathématiques ne jouent plus ce rôle de médiation. Il faut y penser. Puisque d'ailleurs, la nature doit se prendre de deux façons, comme forme eidétique et comme matière. C'est comme si nous examinions concernant la camusité, ce que c'est qu'il nous faut porter sur elle le regard de l'intelligence, de sorte que nous n'examinions les réalités de cette sorte ni sans matière, ni selon la matière. Vous voyez bien, ni sans matière, ni selon la matière. Puisque de fait, on les considère selon la forme. C'est la forme qui me fait comprendre la matière en philosophie de la nature. Et ce n'est pas la matière qui me fait comprendre la forme. Si c'était la matière qui me faisait comprendre la forme, ce serait selon la matière. Et comme c'est la forme qui est première, puisque c'est elle qui a l'intelligibilité première, c'est par la forme que je comprends la matière. Alors on peut marcher, vous avez tout compris? Oui. Sont l'optique, la musique, et puis j'ai plus. Oui, l'astronomie.
Comment est-ce qu'on peut garder une réalité en plein temps sans jugement d'existence? Est-ce qu'elles sont subalternées aux mathématiques?
Elles sont subalternées aux mathématiques et elles impliquent le sensible. Vous voyez? Alors, est-ce que par le sensible, il y a le jugement d'existence? Je crois. Mais la formalisation se fait mathématique. Et vous voyez, mettons comme ça, essayons de faire ça. Philosophie de la nature. On part de l'expérience, ce qui est mu. Ce qui est mu implique jugement d'existence. Et le jugement d'existence à travers le devenir. Donc, L'être est atteint dans le devenir. Ceci est atteint dans le devenir et à travers le devenir. Ceci me permet de saisir par voie inductive la nature. Principe. Donc, il y a nécessairement ici ce qu'on appellerait dans le langage de saint Thomas une abstraction formelle. Toute induction implique une abstraction formelle. Le passage de ce qui est immédiatement saisi à un principe. Mais il y a un lien qui demeure avec le jugement d'existence, avec le sensible. Je ne me sépare pas du sensible. Et je pose la nature comme un principe immanent de ce qui est mu. Et je vois que ce principe est à la fois matière et forme. Pour Aristote, il y a le domaine mathématique. Et le domaine mathématique est très ancien, puisque pour lui, les mathématiques viennent d'Égypte, et vous savez bien, de la caste sacerdotale qui a des loisirs. Il ne faut jamais l'oublier, cette phrase d'Aristote. Donc les mathématiques représentent une sagesse, une certaine sagesse. Pour Aristote, ce n'est pas une sagesse. Hein. Donc une connaissance, disons. Une connaissance scientifique, ça c'est sûr. Donc une certaine philosophie. Une certaine philosophie. Puisque toute connaissance scientifique est philosophique. Certaines connaissances scientifiques, une certaine connaissance scientifique, pas de façon absolue. Il y aura toujours un bémol. Les mathématiques impliquent donc une abstraction. L'abstraction par rapport au sensible, par rapport au mouvement. On abstrait. Qu'est-ce qui reste? Si j'abstrais du sensible et du mouvement. Donc, je m'abstrais de l'expérience. Je m'abstrais du jugement d'existence. Le jugement d'existence est mis entre parenthèses. Et qu'est-ce que je mets en pleine lumière? Nécessairement, une forme. Quelle forme? C'est ça qui est intéressant à voir. Quel est le fondement de cette forme qui est retenue? Est-ce la quantité? Pour saint Thomas, c'est la quantité. Est-ce un au-delà de la quantité, la relation? Est-ce que l'être mathématique n'est pas essentiellement un être relatif? Qu'il y a bien un fondement dans la réalité, un fondement même du divisible, mais le divisible est formalisé par l'acte de pensée qui divise. L'acte du divisible, c'est la division. Et l'être mathématique n'est qu'à partir de la division, qui donne immédiatement une relation. Parce que les quantités est fondement d'être mathématique. Alors, on a bien une forme très particulière qui est une forme abstraite. Pour Aristote, c'est très net. Une forme abstraite qui reste dans le domaine du possible. Et parce qu'elle est formalisée, elle a une intelligibilité d'une extraordinaire pureté. C'est le domaine propre des mathématiques, donc. Une certaine séduction très grande pour ma raison. Puisque c'est coupé du domaine de la matière, du sensible et de l'existence. C'est un être formalisé. Formalisé par mon intelligence. Donc c'est un être qui n'existe formellement que dans l'intelligence. Et c'est pourtant pas un être de raison. Donc, il faut bien comprendre, ce n'est pas un être de raison, les mathématiques. Les mathématiques sont plus proches du réel que l'universel. Sont plus proches du réel que la logique pure, qui est, elle, uniquement l'être de raison. Donc, vous voyez, c'est ce domaine très particulier du domaine mathématique. Ce besoin, alors c'est ça qu'il faudrait comprendre, ce besoin de l'intelligence humaine de mathématiser. Pourquoi l'intelligence humaine éprouve-t-elle ce besoin d'inventer les mathématiques? Nous comprenons très bien comment l'intelligence humaine a besoin de connaître le monde physique qui lui est donné, qui ne dépend pas d'elle. Et donc elle doit le connaître. Mais pourquoi a-t-elle le besoin de formaliser? Et de formaliser ce monde particulier qui est le domaine mathématique. Alors moi je crois, c'est que notre intelligence étant liée au sensible, le lien avec le sensible limite terriblement le domaine de la quantité, il y a comme une espèce d'évasion. Un domaine où l'intelligence humaine peut se développer selon ses lois propres. L'être mathématique implique un apport de l'intelligence énorme, puisque le fondement de la réalité est lointain. Vous voyez, alors, c'est là où il faudrait bien regarder la différence entre ce possible mathématique et le possible de l'idéa artistique, qui est le fruit de l'inspiration. Ce sont deux possibles tout à fait différents. Mais c'est vrai que ce sont deux possibles qui sont au-delà du jugement d'existence. Le jugement d'existence ne mesure pas ce possible mathématique et ce possible artistique. Ça explique, vous voyez, leur rencontre. Comment le domaine artistique et le domaine mathématique pourront se lier ensemble et se développer comme un domaine particulier qui sera sans doute le domaine de l'idéalisme. Je crois que c'est la rencontre des deux. Et cette rencontre des deux est possible parce qu'il y a un point de contact entre les deux. Et ça explique aussi comment les mathématiques auront toujours une certaine parenté avec la technique et demanderont de se réaliser dans un ordre technique. Le passage, voyez, du domaine mathématique à la technique, c'est quand même un aspect très important et très intéressant. Donc, quand je prends ici l'art, la technique est impliquée dedans. C'est le possible réalisable, le possible artistique, c'est le possible réalisable, tandis que le possible mathématique est indépendant du réalisable. Il s'impose par lui-même. C'est dans ce sens-là que ça reste spéculatif. Le domaine mathématique reste spéculatif. C'est la première connaissance philosophique spéculative qui a quelque chose pour elle-même. De ces domaines mathématiques, il y aura une application pour les sciences subalternées aux mathématiques, donc l'optique. Et Aristote dit que dans l'optique, on revient au physique, donc au sensible, mais le sensible est comme mesuré, formalisé par les mathématiques. Donc ce sensible n'est plus mesuré, je crois, par le jugement d'existence. Il est mesuré par le domaine proprement mathématique. Il me semble. Parce que s'il était mesuré par le jugement d'existence, il ne pourrait pas être mesuré par les mathématiques. Il ne pourrait plus être formalisé. Le sensible ne peut être formalisé que s'il est coupé du jugement d'existence. Le mouvement ne peut être formalisé que s'il n'est plus mesuré par le jugement d'existence. Donc il y a là quelque chose de très particulier qui est une abstraction par rapport au jugement d'existence.
C'est comme ça que vous expliquez tous les oublis du jugement d'existence dans la philosophie ?
Oui. Exactement. La mise entre parenthèses du jugement d'existence. Par la mathématisation. Vous voyez, chez Husserl, c'est assez net. Il passe du domaine mathématique au domaine philosophique. Il refait un peu une démarche platonicienne, si vous voulez. Alors, pour Platon, c'était simple, parce que le jugement d'existence, il venait d'en haut. Hein? Tandis que, pour nous, le jugement d'existence vient d'en bas. Et pour Aristote aussi. Alors, comment se constitue l'optique? Comment se constitue la musique? C'est, je crois, cette formalisation, mensuration par les mathématiques du sensible. On ira le plus loin possible dans une certaine intelligibilité du sensible. Et on verra que par les mathématiques, on arrivera à avoir une intelligibilité du sensible plus grande que par le sensible lié au jugement d'existence.
Mon père, est-ce que ça fait... On n'aurait pas, en philosophie de la nature, comme fondement la quantité continue, en optique ou... Enfin, les sciences subalternées, la quantité discrète, et puis en mathématiques, la relation.
Je crois qu'on pourrait dire ça. Mais une relation qui est liée, toujours divisible. C'est pas la relation qui relève de l'action et de la passion. Vous voyez ? Quoi qu'on aurait peut-être en mécanique le point de vue. Vous voyez ? C'est très curieux ça. Parce que la relation peut se fonder sur le divisible et elle peut se fonder sur le mouvement.
Et on passerait de la quantité continue à la quantité discrète par la relation.
Tout à fait. C'est par la division. C'est par la division. Vous voyez ? Moi, je dirais plutôt par la division. Parce que c'est plus proche. La division joue un rôle capital en mathématiques parce qu'elle actue. Elle actue le divisible. Et elle permet au divisible une nouvelle abstraction qui fait qu'on ne retient plus que la relation. Mais une relation... Faisons attention quand je dis relation... Ce n'est pas la relation métaphysique, c'est la relation mathématique. C'est une formalisation de la relation. Bon. Et vous mettez ensuite philosophie première. La philosophie première implique elle aussi une abstraction qui, au dire de saint Thomas, est une séparation. C'est là où jouent les interprétations du De Trinitate de Boès. Alors, cette philosophie de la nature implique donc une abstraction qui fait qu'on n'atteint plus le point de vue ce qui est mu, mais ce qui est. C'est la mise en lumière de ce qui est séparé du devenir. Ou distinct du devenir. En comprenant que dans tout devenir, si je regarde dans le jugement d'existence, implique l'être. Et je peux donc ne regarder que l'être. Et c'est à partir de là que se fera la saisie de l'ousia, la substance. Et je serai dans le domaine d'une intelligibilité liée au jugement d'existence, toujours liée au jugement d'existence, mais une intelligibilité d'un caractère tout autre que l'intelligibilité de la philosophie de la nature. Et vous voyez que là, je ne passe pas par l'intermédiaire des mathématiques. Tandis que pour Platon, le domaine des mathématiques est le tremplin du sensible au domaine proprement philosophique, dialectique. Donc il y a une situation tout autre par rapport aux mathématiques. Alors il faudrait regarder maintenant, vous voyez, la génération de la science moderne. Le rôle exact des mathématiques dans les sciences physiques modernes est-il le même que dans l'optique et la musique ? C'est ça qu'il faut regarder. Ça c'est très intéressant à voir. Parce que vous verriez que les mathématiques, vous voyez, règnent différemment dans les sciences subalternées que dans les sciences modernes. Vous ne direz pas que les sciences modernes sont subalternées à la mathématique. Vous ne le dites pas, mais elles sont quand même subalternées. Puisqu'elles ne peuvent se formaliser que grâce à l'apport mathématique. Alors au fond, est-ce que c'est ça la subalternation, ou bien c'est un autre type de subalternation? Et ceci est particulièrement visible dans la biologie. Par rapport donc au vivant comme tel. Est-ce que le vivant n'est-il pas irréductible à la formalisation mathématique? Oui, c'est pour ça que dans la biologie, dans la science biologie moderne, vous avez les deux courants. Vous avez les deux attitudes. Ceux qui réduisent le monde biologique au monde physique, et ceux qui disent non, c'est irréductible, les spiritualistes. Marois expliquait ça admirablement quand il voyait juste, parce que lui plongeait dedans. Il réfléchit beaucoup là-dessus. Alors, oui, on comprend très bien que le jour où la biologie quitte les mathématiques, elle ne peut plus se formaliser. Alors c'est là le gros problème pour moi. Comment le domaine des mathématiques a remplacé progressivement le domaine de la philosophie première, qui est sagesse. Dans le monde d'aujourd'hui, les mathématiques jouent un rôle de sagesse par rapport à toutes les sciences modernes. Et même par rapport à la philosophie, par l'intermédiaire du CERN. Et c'est ce qui explique l'emprise de la logistique, vous voyez, au point de vue logique, sur le point de vue philosophique. Le père Brinsky était très ému de ça. Et pour lui, c'était très net. Hein. Il me le disait il y a 10 ans, mais maintenant, la prophétie n'étant pas réalisée, on peut la dire. Il me disait, dans 10 ans, il n'y aura plus qu'une seule pensée philosophique, la logistique, la logique mathématique. Tout le reste disparaîtra. Parce que pour lui, les autres, c'est de l'art. Et l'art, pour lui, c'est le beefsteak. De carême. C'est-à-dire la réalité que, oui, c'est très bien. C'est du sentiment. Et je crois que c'est très, très important. Et ce que dit Aristote ici est très intéressant parce qu'au fond, il nous montre la frontière. Il ne faut pas oublier qu'Aristote est quand même le père de la philosophie de la nature. Et le père de la philosophie de la nature pour la libérer des mathématiques. Pour Platon, la philosophie de la nature n'existe pas. La science apparaît avec les mathématiques. Et les mathématiques vont être dépassées par la philosophie proprement dite, la dialectique, parce que les mathématiques demeurent toujours hypothétiques. Ce que dit Platon. On reste dans l'hypothèse du possible. Donc ça reste hypothétique. Toutes les mathématiques sont hypothétiques. C'est pas si bête. Hein. Et seule la philosophie dialectique va, elle, avoir l'intelligence des principes. À la manière de Platon. C'est-à-dire des formes en soi qui, elles, existent. Donc on va retrouver le jugement d'existence par les formes en soi. Par ce domaine supérieur. Tandis que les mathématiques n'ont pas le jugement d'existence. Pour Platon, c'est net. Donc elle reste hypothétique. Alors, vous voyez comme c'est intéressant, parce que tout ce qui dépend des mathématiques reste hypothétique. Le jugement d'existence vient en dehors des mathématiques. Il vient directement. Et le jugement d'existence est au-delà de toute critique. Puisque c'est l'intelligence qui se sert des sensations dans les sens sensibles pour rejoindre ce qui est. Et vous voyez, comme c'est fragile, hein, c'est le petit David avec la fronde en face de Goliath. C'est exactement ça. C'est une fragilité étonnante, la philosophie première. Puisque tout repose sur le jugement d'existence. Si on ne saisit pas le jugement d'existence, vous êtes embarqué dans un monde qui est évidemment extrêmement riche, mais qui reste un domaine hypothétique de l'hypothèse, qui n'atteint jamais la finalité, qui n'atteint jamais le bien. C'est un monde de relations. Vous voyez, quand Merleau-Ponty définit l'être un tissu de relations, on peut dire que là, il est en dépendance très nette de toute cette philosophie-là. La philosophie de la phénoménologie de Husserl. C'est le premier. Et quand Merleau-Ponty, à la fin de sa vie, veut redécouvrir l'être sauvage, il veut libérer la philosophie des mathématiques. La libérer du réseau relation. Donc il y a quelque chose d'analogue, vous voyez, avec l'effort d'Aristote. Et c'est ce que fait aussi Heidegger de son côté. C'est ça qui est intéressant, ces deux parallélismes du côté de la France et du côté de l'Allemagne. Alors Heidegger, avec sa force beaucoup plus grande que Merleau-Ponty, qui reste toujours avec c'est quelque chose de très fin, la philosophie de Merleau-Ponty, et qui reste de ne pas être peut-être assez net. Donc, je crois que c'est le problème central d'aujourd'hui. Et c'est là où on doit essayer de comprendre le point de vue de la critique. Critique des sciences, c'est ça. Et nous devrions essayer de réécrire ensemble, c'est une œuvre commune qu'on devrait faire, réécrire ensemble les degrés du savoir pour avoir un regard net et précis. C'est pas ça qui fait naître la métaphysique. La métaphysique ne naît pas de la critique, mais ça déblaye le terrain. C'est le bulldozer. On a besoin d'un gros bulldozer aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de neige, tellement de boue, tellement de touche, qui déblaye le terrain et montre avec une très grande acuité que toute la philosophie réaliste dépend du jugement d'existence.